grand-mère les appelait les bohémiens. Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, nous allons trouver Louis de Gouillon-Matignon. Louis de Gouillon-Matignon est un tout jeune homme, mais qui, malgré son nom qui ne paraît pas très gitan, fréquente les gitans depuis ses 15-16 ans, et il vient de sortir un dictionnaire français tzigane, tzigane français. Et je l'ai rencontré au mois de février à Paris. Nous nous étions donné rendez-vous place de la Sorbonne où il fait des études de droit. Et cet entretien a eu lieu dans un café du coin et... Eh bien, sur le plan technique, vous allez entendre, c'est pas terrible, terrible, parce qu'il y a un peu de bruit dans ce café. Mais par contre, il se dit des choses très intéressantes. Alors, comme la semaine dernière, je vais vous parler aussi des musiques que vous allez entendre dans cette émission. On va commencer tout de suite, avant d'entendre Louis, par Django Reinhardt. Ensuite, on entendra dans l'émission de Chavalo Schmidt. Et puis, des musiques de Jean-Philippe Leclerc, qu'il a eu la gentillesse d'enregistrer spécialement pour cette émission. Voilà, je vous souhaite une bonne émission, et on commence par Django Reinhardt. Thank you. Eh bien, bonjour, toujours dans cette série d'émissions sur les Tziganes. Aujourd'hui, je reçois Louis de Gouillon-Matignon, qui a sorti il y a très peu de temps, quelques mois maintenant, ou à peine, le premier dictionnaire tzigane français, français tzigane. Enfin, en tout cas, à ma connaissance, c'est le premier. Bonjour Louis.
Bonjour Jean.
Alors, ce dictionnaire, c'est le premier ou pas ?
Alors, le dictionnaire tzigane, c'est pas le premier dictionnaire tzigane, mais c'est le premier dictionnaire tzigane dans la langue des manouches. Pour faire rapidement, une espèce de panorama sur qui sont ces différentes personnes, tzigane, c'est un terme qui se référence à différents groupes de population et qui porte différents noms en fonction de leur localité et en fonction de leur histoire. La plupart des tziganes qui vivent en Europe de l'Est s'appellent les Roms. La plupart des tziganes qui vivent en Europe de l'Ouest s'appellent les Manouches, et la plupart des tziganes qui vivent en Espagne et au Portugal s'appellent les Gitans. J'ai écrit un dictionnaire dans le dialecte des Manouches, c'est-à-dire des tziganes des pays de l'Ouest de l'Europe, ceux qu'on appelle les Manouches ou Sinté dans les institutions européennes.
Oui, mais alors Louis de Gouillon-Matignon, c'est pas spécialement un nom tzigane ni manouche. On peut pas dire. Et puis quand on te voit, on n'a pas l'impression que tu sors d'une caravane, quoi. Comment c'est venu cette histoire ?
Moi, c'est simple. À 15-16 ans, je fais de la guitare. Je tombe sur un morceau de musique, c'est Django Reinhardt qui joue. Et là, tout de suite, ça me plaît, ce style de musique me plaît, et j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de me mettre à étudier ce style de musique, et même peut-être à le jouer. Je commence à acheter des CD, je commence à aller sur Internet, à regarder qui sont les musiciens qui jouent dans ce style. Je commence à m'acheter une guitare dans ce style, et puis je commence à jouer. Alors là, il y a quelque chose d'assez fort qui se produit, c'est que je me rends compte que c'est vraiment un style de musique qui me plaît, c'est quelque chose qui me passionne, et j'ai envie vraiment d'en savoir plus. Je commence à aller dans les différents festivals de musique, que ce soit Samoa-sur-Seine au mois de juin, près de Paris, à Fontainebleau, que ce soit aussi le festival Jazz Musette des Puces, mais aussi que ce soit dans les cafés ou dans les différents endroits réputés pour jouer ce style de musique, dans lesquels on peut venir buffer, comme disent les musiciens, c'est-à-dire venir avec son instrument pour pouvoir participer. Et de là, se noue une espèce d'amitié entre moi et certains musiciens qui sont manouches, qui sont des gens du voyage, comme on les appelle en France, c'est-à-dire des personnes qui sont itinérantes, parfois semi-itinérantes, et qui ont un style de vie nomade, qui vivent en caravane et qui ont parfois des terrains pour stationner leur caravane. De là, différents musiciens me proposent de venir les rencontrer dans leur caravane, de venir m'imprégner un petit peu de leur mode de vie, et de là, je commence à aller les voir le week-end, le soir, en semaine, les rencontrer pour pouvoir partager, pour pouvoir faire de la musique. Suite à ça, je me rends compte que, en plus de la musique, ce qu'on appelle les gens du voyage en France, qui sont soit manouches, soit yéniches pour la majorité, ont plus que la musique. Ils ont une véritable culture. Ce peut être la langue, mais aussi l'organisation sociale, la façon dont ils respectent leurs anciens, la façon dont ils prennent soin de leurs enfants, mais aussi la religion. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la majorité des gens du voyage en France se disent évangéliques. C'est une branche du protestantisme qui existe chez les gens du voyage et qui, en tout cas, a un fort effet sur les gens du voyage depuis une cinquantaine d'années. Donc, à partir de 16-17 ans, j'ai ma guitare, j'ai connu Django Reinhardt et sa musique, je vais de caravane en caravane, si je puis dire, dans différentes régions de la France, que ce soit dans le sud-ouest de la France, entre Pau, Tarbes et Bordeaux, où je sais qu'il y a une forte communauté manouche, mais aussi en Alsace, où la majorité des musiciens manouches sont issus, des endroits comme par exemple Strasbourg, Silitzheim, Forbach, Soufflenheim. Et à partir de là, je me rends compte que ce sont des gens qui ont vraiment beaucoup à m'apporter et je pense que je peux aussi les aider sur différentes choses. Je commence à apprendre leur langue, tout simplement. C'est-à-dire que j'avais un téléphone portable et en partant en mission avec eux, ce qu'on appelle partir en mission, c'est-à-dire partir plus de 10 jours dans des caravanes, un petit peu faire une espèce d'itinéraire dans une zone géographique bien délimitée. Je commence à partir en mission, je commence à apprendre la langue, me marquer des mots, me marquer des phrases. Au début, c'est des mots simples, « bonjour ». Que fais-tu ? Où suis-je ? Et puis après, j'ai commencé à faire des phrases, etc. Et il y a 2 ans, m'est venue l'idée de pouvoir, entre guillemets, sacraliser, en tout cas donner une dimension écrite à cette langue. Et de là est venue l'idée pour moi d'écrire un dictionnaire. Et ce dictionnaire, je l'ai écrit car je crois qu'il est important de pouvoir sauvegarder la langue d'un peuple qui a, pendant un millénaire, subi la discrimination et l'opprobre. Et je crois qu'il était aussi important de pouvoir donner une véritable dimension écrite à une langue qui n'était que d'habitude de tradition orale. Il faut savoir que la majorité des gens du voyage en France, qu'ils soient yéniches ou manouches, vivent avec une forte tradition de l'oralité. Ils apprennent à parler la langue de par leurs parents, ils apprennent à jouer de la musique avec leurs parents, ils apprennent à travailler avec leurs parents. Ce ne sont pas des gens qui sont proches de l'écrit ou ce ne sont pas des gens qui suivent, comment dire, une espèce de cursus traditionnel, à savoir qu'ils vont à l'école, qui lisent, qui écrivent, etc. Non, ce sont des gens qui vivent très fortement avec leur famille, c'est ça qui fait d'ailleurs leur force, je crois. Ils vivent beaucoup en communauté et ils apprennent tout des différentes personnes de leur famille.
Tu parles vraiment la langue?
Ah oui, je parle, j'étais hier encore sur une place des idées à Meaux, chez la famille Harter. Je parle dès que je vois un manouche, parce que je vais reconnaître la personne qui est manouche et je vais même reconnaître la personne qui sait parler la langue. Parce qu'elle va avoir quelques réflexes ou quelques instincts qui sont propres à cette communauté et qui sont propres en partie et en particulier aux gens qui parlent la langue. Je pourrais vous dire Tchnaog me la chodives, caro manuhi me humi gajo, me hum sun paris, me humi parisari, uneshkane hake hum drenani virta, haivom an mishtogate mit imal mandar, car el peslo jean, un hake hum, voilà.
Oui, mais en clair alors.
Alors là, je me suis présenté, j'ai dit que j'étais dans un café avec Jean, j'ai dit que j'étais un gajo, que j'habitais à Paris et que j'étais étudiant.
D'accord. Mais c'est très marrant parce que Ça n'a peut-être aucun rapport, mais ton histoire d'avoir démarré ce contact avec le monde manouche par la musique, ça me fait penser au film Swing de Tony Gatliffe.
C'est exactement ça. Et alors, c'est d'autant plus vrai ce que tu dis, c'est que, en fait, ce qui m'a intéressé au peuple des gens du voyage, je vais utiliser le peuple des gens du voyage, parce que si je dis le peuple tzigane, certaines personnes ne seront pas concernées, et si je dis seulement les manouches ou les yéniches, on va perdre du temps. Donc je vais dire les gens du voyage en général. Ce qui m'a plu chez les gens du voyage, c'est, pour corroborer ce dont tu viens de parler, c'est la culture en général. Et moi, en fait, aujourd'hui, mon action, elle est très simple. J'ai 21 ans, je suis étudiant en droit à la Sorbonne, je suis très proche d'une communauté en France, et je crois, je pense, et je travaille pour que cela aboutisse, qu'au travers de la culture, nous pouvons aider ces gens-là, et seulement au travers de la culture. Je pense qu'il y a une action juridique à mener, une action politique. Cependant, moi, je me cantonne à rester seulement sur l'aspect culturel. Et mon but, à travers l'écriture de ce dictionnaire, c'était de créer encore un pont culturel entre la population majoritaire, les gagés, et la population minoritaire, les voyageurs.
Oui, mais alors, je vais te poser une question un petit peu vicieuse. Moi, j'ai traîné sur un certain nombre de sites de voyageurs, on va dire, où, justement, ils se plaignaient qu'on révélait un certain nombre de leur vocabulaire auprès des gadgets, justement, et que, du coup, j'allais dire, ils allaient perdre leur petit secret, quoi.
Alors, à ça, moi, je réponds, je vois totalement ce dont vous voulez parler. Moi, j'ai quelque chose de simple à répondre. Si les gens du voyage ont envie que leur situation évolue, il faut qu'ils commencent à se tourner aussi vers les autres, et il faut qu'ils commencent à s'ouvrir. Les gens du voyage, et ça c'est une certitude que j'ai, ne pourront pas évoluer s'ils continuent de rester en communauté, s'ils se ferment à toute aide, ou en tout cas je n'aurais pas la prétention de dire que je les aide, mais en tout cas à toute attention de l'extérieur. Je crois que pour que les gens du voyage puissent évoluer, pour que les gens du voyage puissent continuer d'exercer le style de vie qu'ils entendent, il faut qu'ils s'ouvrent avec des personnes qui sont différentes. D'autant plus que la majorité, et ça c'est un pic que je lance peut-être, mais la majorité des gens qui disent que j'aurais pas dû écrire ce dictionnaire ne parlent même pas la langue, donc ils n'ont aucune légitimité à le dire. Au contraire, ils devraient plutôt essayer de trouver le dictionnaire pour apprendre, réapprendre des mots. Parce que ce dont je n'ai pas parlé, c'est que aujourd'hui, il faut savoir que la majorité des gens du voyage, et en particulier des manouches, et non pas des yéniches, car la langue que j'ai traduite n'est pas la langue des yéniches, il existe un dialecte yéniche. Celui que j'ai fait,
est-ce que tu peux expliquer pour nos auditeurs la différence entre justement les manouches et les yéniches?
J'expliquerai ça juste après, mais avant, c'était juste pour dire qu'aujourd'hui, la majorité des manouches ont perdu l'usage de leur langue. Parce que ça s'est perdu. Beaucoup de gens pensent que c'est à cause de la guerre. Moi, je ne pense pas, parce que les Roms n'ont pas perdu l'usage de leur langue. En Alsace, je suis allé. En Hollande, je suis allé. En Allemagne, je suis allé. Les gens continuent à parler leur langue. C'est seulement une certaine partie des gens du voyage français qui ont perdu l'usage de cette langue. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, il faut savoir que la majorité des manouches ont perdu l'usage de leur langue. La différence entre les manouches et les yéniches, elle est très simple. Les manouches, c'est un des trois groupes qui forment l'ensemble tzigane. C'est-à-dire que c'est un groupe qui a des racines indiennes. On pense que les tziganes, en tant que groupe uni, seraient partis au XIe siècle de l'Inde pour se diviser autour du XIVe, XVe siècle en trois groupes différents, les Roms, les Manouches et les Gitans. Les Yéniches sont des populations autochtones d'Allemands, on pense, qui, au cours de la guerre des 30 ans, 1618-1648, auraient adopté un style de vie nomade comme les tziganes. On les appelle d'ailleurs, dans les pays où ils sont majoritaires, c'est-à-dire l'Allemagne, la Suisse et l'Est de la France, les tziganes blonds. Mais ils n'ont rien à voir avec les tziganes. Les yéniches sont des personnes qui ont un style de vie nomade, les manouches sont des personnes qui ont un style de vie nomade et qui ont en plus une certaine origine, une certaine culture et une langue. Thank you.
Mais quand même, reviens là-dessus, te vexe pas, mais c'est quand même étonnant qu'un monsieur qui s'appelle Louis de Gouillon-Matignon se retrouve avec des gens qui vivent en caravane, qui sont enfin, ils le prendront pas mal, mais pour un grand nombre, illettrés ou quasiment. C'est quand même assez curieux, non? Comment cette osmose s'est faite? Comment t'as vécu ça, plus exactement?
Les gens du voyage, ils m'ont apporté des choses que j'avais pas. Et moi, je leur ai apporté des choses qu'ils n'avaient pas. Et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis assez lié avec pas mal de personnes au sein de la communauté. Beaucoup de gens me connaissent au travers de toute la France parce que j'ai essayé d'aller un peu partout pour faire parler de moi, pour rencontrer, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir vraiment m'imprégner de leur culture. Moi, ça m'a plu d'aller à la rencontre de gens qui étaient différents. Moi, je crois pas que parce que l'on vient d'un milieu particulier ou parce qu'on a reçu une éducation particulière, on ne peut pas aller à la rencontre des personnes qui sont différentes. Au contraire, moi, ça m'a enrichi d'une façon... Je n'aurais jamais imaginé faire toutes les rencontres que j'ai faites et les expériences que j'ai faites. C'est fabuleux. Je pense que aujourd'hui, d'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui souhaitent s'enrichir de la différence des autres d'aller à la rencontre de personnes différentes. Ça peut être des gens du voyage, mais ça peut être aussi toutes sortes de personnes différentes. Je ne sais pas, moi, je n'y ai pas réfléchi, mais moi, quand je suis avec eux, je me sens bien. Je ne me suis jamais posé cette question de savoir si je devais aller avec eux parce que je venais d'un certain milieu ou si je ne devais pas le faire. Moi, j'ai trouvé des gens qui me plaisaient. Je pense que ce sentiment a été réciproque et j'en ai tiré un certain motif de satisfaction. Je me suis investi avec eux, j'ai travaillé avec eux, j'ai fait leur métier, je me suis converti à une partie de leur religion, j'ai appris à les connaître, à les respecter, cette valeur fondamentale au sein de la communauté des gens du voyage qu'est le respect. J'ai vraiment fait des rencontres et des choses qui il n'y avait plus de frontières, c'est-à-dire que c'était presque de l'ordre, on me pardonnerait l'expression, mais presque tribal. C'est-à-dire que c'était deux êtres qui se sentent bien ensemble et qui partagent. Et aujourd'hui, ça fait 6 ans que je suis avec les gens du voyage, j'ai 21 ans, je suis dans une université prestigieuse, je fais des choses qui sont belles, mais j'adore toujours aller passer du temps avec les gens du voyage. Et je veux dire quelque chose, peut-être que pas beaucoup de gens me croiront, mais aujourd'hui, mes seuls amis, c'est les gens du voyage.
Et, mais alors, finalement, c'est... Ce que tu dis, c'est que un des intérêts de la vie, c'est simplement les rencontres.
Bien sûr, bien sûr. La culture, les rencontres, le partage. Si vous saviez ce que c'était que les gens du voyage. Moi, pour l'anecdote, une fois, je repartais, j'étais en mission avec une des familles les plus pauvres au sein de la communauté des gens du voyage. C'est une famille qui s'appelle les Duville. Ils vivent en général sur les bords de la Loire et ils sont réputés notamment pour vivre encore en roulotte et en caravane hippomobile. J'étais avec des gens très pauvres. Lorsque je suis parti, ils avaient peur que je manque de certaines choses, donc ils m'ont offert de l'eau, des vivres, ils m'ont même donné de l'argent. Et ça, cette petite image révèle à quel point les gens du voyage sont des gens ouverts. J'ai jamais vu ça. Ce sont des gens qui partagent, ce sont des gens qui sont ouverts. Et moi, j'avais besoin de ça. Bon, c'est un peu bateau ce que je vais dire, mais j'avais pas envie de me retrouver avec les personnes avec lesquelles j'avais grandi, dans un milieu prédéterminé et avec, comment dire, des espèces d'idées, des espèces de voies de carrière qui étaient déjà prédéfinies. Moi, je voulais aller à la rencontre de gens qui étaient différents. Et là où j'ai eu de la chance, c'est que j'ai été assez mûr à 15-16 ans pour voir justement qu'il fallait aller à la rencontre de gens différents. Et aujourd'hui, c'est un total succès. Moi, je suis vraiment heureux d'avoir créé des liens forts avec une population forte. Et aujourd'hui, lorsque je parle avec les gens du voyage, lorsque je rigole avec eux, lorsque je pleure avec eux, lorsque je vais prier avec eux, bah, je me sens bien. Et je crois que c'est pas parce que vous venez de tel ou tel endroit que vous devez vous imposer telle ou telle norme ou telle frontière. Je pense que c'est ça la force de l'homme, et je pense que c'est ça être libre. Et nous, on est français, donc on est libre, on est attaché à notre liberté, on est attaché à notre grande gueule. C'est ça, c'est aller vers les autres et leur montrer qui on est. Et voilà, et sans, pardonnez mon expression, mais je m'en fiche de toutes les barrières sociales et toutes les normes. Moi, je suis là parce que j'ai envie de rencontrer des gens différents qui sont forts et que je pourrais aimer. Et je pense qu'ils m'aiment aussi d'ailleurs bien. Ouais. Thank you.
alors je vais poser une question très bête. Mais tu dis que ça fait 6 ans que tu fréquentes les gens du voyage. Et or, il y a 6 ans, tu avais donc 15 ans.
C'est ça.
Et alors, comment tes parents ont pris ça?
Alors, c'est une question qu'on me pose souvent, parce que j'ai la chance de rencontrer différentes personnes qui sont interpellées, en tout cas, par mon action.
Bah, c'est, elle n'est pas évidente.
Ouais, c'est assez original. Et bah, la réponse que je leur donne toujours, et qui d'ailleurs leur paraît assez originale, c'est que mes parents, ils ont toujours été là pour moi, ils m'ont toujours soutenu en fait dans ce que j'ai fait. On pourrait s'attendre à ce qu'un jeune qui soit issu d'un milieu particulier rencontre des barrières, rencontre des refus. Eh bien non, moi, dès mon plus jeune âge, dès 15-16 ans, mes parents m'ont toujours supporté, ils m'ont aidé dans mes différents projets, ils m'ont orienté, ils m'ont dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais ils ont toujours été avec moi. Ils m'ont toujours dit c'est bien ce que tu fais, Louis, tu vas à la rencontre de personnes qui sont différentes, ça ne pourra que t'enrichir. Et je pense que en ça, je dois leur être très reconnaissant, ce que je suis d'ailleurs.
Et alors, comment tu vois la suite? Parce que là, tu viens de sortir un dictionnaire.
Ouais.
Ceci dit, juste un petit reproche, mais
ouais.
Moi, ne connaissant pas la langue, etc., il n'y a aucun élément de grammaire, ce qui fait qu'il y a des mots, mais on ne sait pas comment...
Alors ça, c'est drôle, mais c'est aussi un des arguments que j'ai mis en avant lorsque tout le monde m'a accusé d'avoir révélé les arcanes de cette langue. Non, je n'ai révélé aucun arcane, dans la mesure où on ne peut pas comprendre la langue ni la parler si on n'a pas une méthode de grammaire. Moi, j'ai sorti un dictionnaire. Je défie quiconque, aujourd'hui, de venir me voir et de me dire qu'il a appris à parler une langue grâce à un dictionnaire. C'est pas possible, c'est différents mots. Après, pour pouvoir mettre ces mots dans une phrase, je pense qu'il y a une grammaire, une conjugaison à adopter. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je n'ai pas envie de faire pour l'instant, mais auquel peut-être je pourrais aider certaines personnes si bien. Lorsque Jean, vous me dites quel est l'avenir de ton action, Louis, moi je serai bientôt avocat. J'aime les gens du voyage, j'ai envie de pouvoir les aider, j'ai envie de pouvoir continuer à me battre pour eux. Il y a beaucoup de choses qui doivent être faites, il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous pouvons avancer. Je pense que la langue, il y a encore pas mal de choses à faire. Je pense qu'au niveau de la musique, il y a aussi d'autres choses à faire. Et enfin, je pense qu'au niveau de la médiatisation de ces différentes questions, il y a un gros travail à faire. Je vais continuer à avancer, je vais continuer à promouvoir la culture, une culture certes au bon mais qui a beaucoup de richesses à offrir au monde des gadgets aux alentours. Et je vais essayer de continuer à avancer en gardant toujours à l'esprit de pouvoir transmettre tout ce que j'ai reçu de cette population.
Et alors, tu as évoqué un truc sur les actions. Or, tu as été un collaborateur de M. Hérisson.
Hérisson, oui.
Hérisson, pardon, je suis très nul. Mais c'est pas grave. Et est-ce que tu penses, moi ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que tu penses que les hommes politiques à l'heure actuelle sont conscients de justement des actions que tu prônes? Est-ce que pour eux, ce monde des manouches, des titans, des giganes, enfin on appelle ça comme on veut, est une préoccupation ou pas? Ou est-ce que c'est un problème annexe plutôt embêtant?
Alors la première chose, c'est que je travaille toujours avec le sénateur Pierre Hérisson, qui est président de la Commission nationale consultative des gens du voyage. Il faut savoir que le sénateur Hérisson mène depuis 4-5 ans une action forte pour les gens du voyage qui n'est pas toujours reçue de la meilleure façon. Aujourd'hui, le sénateur, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup investi. Dans quelques semaines, peut-être examiné au sein du Sénat un projet de loi qui vise à abolir les différents titres de circulation auxquels sont soumis les gens du voyage. Pierre Hérisson, c'est quelqu'un qui... Ça a été un des premiers politiques à s'intéresser à cette question et à faire quelque chose en faveur de ces gens-là. C'est pour ça que je le respecte beaucoup et je pense que c'est pour ça qu'on devrait respecter son action et respecter le personnage. vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent à ce sujet. Les gens y voyagent, c'est quelque chose d'assez noir pour la plupart des politiques. Il faut savoir que de droite comme de gauche, j'ai rencontré des gens qui étaient pour ou contre les gens du voyage. J'ai rencontré des gens qui étaient à gauche, qui n'aimaient pas du tout les gens du voyage, qui disaient qu'ils étaient sales, qui disaient qu'ils ne respectaient pas les règles, etc. J'ai rencontré des gens de droite qui me disaient la même chose, et vice-versa. Aujourd'hui, le constat, il est simple. On a une population qui pèse entre 500 000 et 700 000 personnes en France. On a une population qui est en demande des pouvoirs publics. Je ne comprends pas pourquoi aucun politique ne veut aller dans le sens des gens du voyage. La seule chose peut-être qui peut opposer tout politique à aller à la rencontre et à aider les gens du voyage, c'est le fait que sur le plan électoral, c'est vrai qu'aider les gens du voyage, c'est pas terrible. Parce que la majorité des gens n'aiment pas les gens du voyage. Mais pourquoi ils ne les aiment pas les gens du voyage? Pas pour X ou X raisons, tout simplement parce qu'ils ne les connaissent pas. C'est pour ça que moi j'essaie de faire parler de ces gens-là, j'essaie de leur donner une nouvelle image. Lorsque vous dites aujourd'hui, peut-être les politiques devraient plus s'investir, je pense que oui, les politiques devraient plus s'investir sur ces questions-là. Mais la politique, c'est la politique. Il y a des sujets qui sont plus vendeurs sur le plan électoral et qui flattent plus les urnes que d'autres. Malheureusement, les gens du voyage, et en tout cas ce sujet-là, n'en fait pas partie.
Et quoi qu'il les connaît de l'intérieur, est-ce qu'à ton avis, je veux dire que est-ce qu'ils n'ont pas une part de responsabilité dans la mesure où ils vivent un peu... alors c'est vrai qu'ils sont jetés, c'est vrai que les gadgets ont un tas d'a priori vis-à-vis d'eux, mais est-ce que eux non plus ne sont pas en partie responsables en n'allant pas vers...
Il y a deux choses, ils sont en partie responsables en n'allant pas assez vers les gadgets, ça c'est sûr. Je pense qu'ils devraient s'ouvrir davantage, je pense qu'ils devraient, dans la mesure où de plus en plus de gadgets veulent s'investir dans ces questions-là, les recevoir, les accueillir et partager avec eux. Ce que je pourrais aussi ajouter, c'est que malheureusement, comme dans tout groupe, il y a, je ne vais pas utiliser le terme de brebis galeuses, mais il y a toujours des personnes qui sont moins bonnes, ou en tout cas moins respectueuses que d'autres. Et lorsque j'entends différents élus, lorsque j'entends différents citoyens se plaindre du fait que les gens du voyage ne jettent pas leurs poubelles ou laissent les endroits sales, ou lorsqu'ils arrivent sur un terrain, ils ne respectent pas, etc., il y a des cas où c'est avéré, où c'est vrai. Ouais. Je pense que les gens du voyage ne sont pas totalement innocents dans ces questions-là. Cependant, malheureusement, ce n'est qu'une minorité. Cette minorité donne une mauvaise image à la majorité.
Oui, non, mais attends, je veux dire, c'est comme partout. Il y a les mauvais, les bons, les moins bons. Moi, ce que je regrette, si tu veux, c'est que quelque part, quand il y a un délit commis, on dit « c'était quelqu'un de la communauté des gens du voyage », on dit jamais « c'est quelqu'un qui est un breton ou un auvergnat ».
Alors ça, c'est une autre question. Ça, c'est l'utilisation des termes, en tout cas, la vision sémantique qu'on a du terme « gens du voyage », comment on l'utilise, etc. Ça, je pourrais en parler après, mais lorsque je dis « c'est vrai que les gens du voyage ne sont pas toujours, entre guillemets, innocents », malheureusement, le problème est qu'on ne leur donne pas la chance de pouvoir être innocent. Par exemple, moi j'étais avec des gens du voyage, on a dû s'installer illégalement sur une commune, sur un terrain, sur un stade. Mais pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce que personne ne voulait nous donner un endroit dans lequel nous pouvions stationner. Personne. Les pouvoirs publics ne le veulent pas. Les terrains privés, c'est impossible de les pratiquer. Non, c'est très compliqué. C'est pour ça que parfois, ils sont obligés de s'imposer comme ils le font. Et malheureusement, ça, la majorité des citoyens ne le conçoivent pas. Mais c'est vrai que c'est une population dont personne n'a envie d'entendre parler, personne n'a envie d'aller les aider. Et très peu de gens ont envie d'aller à leur rencontre pour découvrir leur culture. C'est ça, à mon avis aussi, qui est très compliqué. Moi, j'essaye, avec beaucoup d'autres acteurs du monde associatif et avec beaucoup d'autres acteurs politiques qui arrivent, mais aujourd'hui, ils commencent à avoir de nouveaux acteurs, justement, casser les préjugés et justement vouloir donner une nouvelle image de ces gens-là pour que la majorité des citoyens, les gadgets, puissent avoir une nouvelle image et une vision qui ne serait pas artificielle ou en tout cas qui ne serait pas faussée. Aujourd'hui, la situation elle est un petit peu compliquée, mais c'est vrai que je pense que si les gens du voyage ont envie d'avancer, si les gens du voyage ont envie de continuer à se battre contre les préjugés, contre le racisme, etc., ils doivent forcément travailler avec les gadgets, forcément. Je ne pense pas qu'ils pourront le faire seuls et vice-versa. Je pense que si les gadgets veulent le faire seuls, si les gadgets veulent aider les gens du voyage sans leur en parler, sans les voir, sans essayer de trouver des dialogues avec eux, ils n'y arriveront pas.
Déjà, je voudrais savoir, quand tu as travaillé avec le sénateur, est-ce que ça a changé ton approche ou est-ce que c'est toi qui, quelque part, lui l'a aidé dans sa vision?
Alors, le sénateur, il connaît pas mal de choses. Moi, j'en connais aussi. Je pense qu'on s'est complété. Je lui ai apporté certains points de vue. Lui m'en a apporté d'autres. Là où j'ai tiré vraiment une expérience forte de cet essai avec le sénateur, c'est que j'ai pu comprendre que, qu'on soit de droite ou qu'on soit de gauche, la question Jean Duhamel, c'était une question délicate. Moi, je me suis retrouvé face à des mairies qui étaient à gauche, qui étaient même parfois extrême gauche et qui avaient du mal à gérer l'arrivée des gens du voyage, que ce soit pendant l'été, que ce soit pendant l'hiver, le stationnement des gens du voyage, la construction d'aires d'accueil. C'est vrai que ça a été quelque chose d'un petit peu compliqué. Je pense que ouais, ce dont j'en ai tiré ce que j'ai tiré le plus de ce séjour, en fait, de ce stage avec le sénateur, c'était comprendre le regard qu'avaient les élus vers les gens du voyage.
C'est vrai que c'est pas clair. Moi, le peu d'expérience que j'ai à ce niveau-là, c'est vrai que les élus ont toujours un problème. S'il n'est pas, j'allais dire, individuel, c'est-à-dire leur propre point de vue, c'est le point de vue de la population.
Oui. Quelle est la question que vous me posez?
Non, mais c'est un constat, en
bien
fait.
Bien sûr, oui, qu'on soit de droite, qu'on soit de gauche, la question Jean Duhamel aujourd'hui est une question qui est délicate, et parfois les élus ont du mal à la traiter, et je crois que peut-être par manque d'information ou par manque d'intérêt, les gens du village n'arrivent pas à se faire entendre sur les différentes communes sur lesquelles ils veulent stationner, et c'est ce qui crée les problèmes entre communes, gens du voyage, élus, gens du voyage, citoyens, gens du voyage.
Malgré tout, j'ai l'impression, alors tu vas confirmer ou affirmer, que de plus en plus il y a une organisation, enfin des organisations de la part des gens du voyage pour influer sur cet état de fait.
Je crois qu'on arrive à un moment un peu décisif dans l'histoire des gens du voyage. C'est vrai qu'on peut constater qu'aujourd'hui, plus de gens du voyage s'engagent, tant sur le plan associatif que sur le plan politique, et notamment grâce à l'action des gens du voyage évangéliques, la mission Ville Lumière, je peux constater que beaucoup de gens du voyage aujourd'hui veulent faire parler d'eux, veulent faire entendre leur voix au sein des institutions, que ce soit des associations, que ce soit des commissions, que ce soit des partis politiques. Et je crois qu'il est important pour les gens du voyage de continuer à aller dans ce sens-là, c'est-à-dire imposer les idées, faire passer des messages et dire à la population majoritaire oui, nous sommes là et oui, nous voulons certaines choses et oui, nous revendiquons certains droits en tant que citoyens français depuis plusieurs générations pour la majorité.
Une des difficultés, enfin je pense, hein, enfin elle paraît évidente des gens du voyage, c'est d'être des gens du voyage. Non, mais je m'explique. Ce que je veux dire, c'est que les sédentaires ont toujours peur d'une manière évidente, en fait, des nomades.
Ça, je sais pas, faut remonter dans l'histoire. Un des premiers recensements des populations nomades en France, c'est 1895. Suite à ça, en 1912, est institué les carnets anthropométriques. Les gens du voyage subissent l'internement en France et pour quelques-uns, une infime partie, l'envoi vers les camps de concentration en Allemagne. En 1946, les gens du voyage sont libérés en France. Le dernier camp à être libéré, c'était celui d'Angoulême, 1er juin 1946. En 1969, sont institués les différents titres de circulation, 4 au total. En 2000, la loi Besson sur l'accueil des gens du voyage. C'est vrai que au travers de l'histoire, en tout cas sur le dernier siècle, on peut constater que la majorité des citoyens, les civils, les gadgets, ont manifesté une certaine méfiance à l'égard des populations nomades. Parce qu'elles, au travers des différents fantasmes et au travers des différentes idées qu'on pouvait se faire de ces populations, elles incarnaient des choses qui pouvaient être compliquées, elles incarnaient des voleurs de poules, elles incarnaient des magiciens, des sorciers, etc. Aujourd'hui, c'est une moche. Je rigole quand on me dit ça, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, les gens du voyage sont des citoyens français depuis plusieurs générations. Chacun ne bénéficie malheureusement pas du droit commun, dans la mesure où c'est une population qui subit encore l'anathème, si je puis dire l'opprobre en tout cas, des pouvoirs publics. Et il faut aller dans un sens de légaliser chacune des situations de chacun des gens du voyage français, c'est-à-dire pouvoir leur faire accéder au droit commun, c'est-à-dire une installation plus facile sur les communes, un vote plus facile, une représentation au sein des assemblées et en tout cas au sein du personnel politique plus évidente, etc. etc.
Ceci dit, est-ce que tu penses, puisqu'il y a un projet à l'heure actuelle, je ne sais pas si ça va aboutir, mais de faire voter donc les étrangers, au moins dans les votes locaux, est-ce que ça ne pourrait pas aider justement à... Parce que jusqu'à maintenant, autant que je sache, du fait... Alors, le carnet de circulation est une chose, mais de toute façon, un gens du voyage ne pouvait pas de voter avant trois ans, de... Enfin, après, dans sa commune de résidence. Donc, est-ce que le fait qu'on permette le droit de vote aux étrangers de la communauté européenne ne pourrait pas accélérer les choses ?
Alors, pas du tout. Moi, c'est pas du tout une vision que je partage. Je pense que les gens du voyage qui sont des citoyens français doivent être reconnus là-dessus comme des citoyens français. Le droit de vote des étrangers n'a rien à voir avec la question des gens du voyage. Non, je pense pas.
Dire, c'est que si on permet aux étrangers d'avoir le droit de vote au moins sur le local, pourquoi on interdirait justement aux gens du voyage qui sont français d'avoir le droit de voter ?
Je pense que c'est pas une bonne comparaison à faire et je pense que c'est pas deux éléments qu'on peut objectivement présenter sur la même ligne. Les gens du voyage sont des citoyens français. Pour pouvoir voter, il faut qu'ils résident de façon ininterrompue pendant 3 ans sur la commune sur laquelle ils ont choisi de s'établir administrativement, leur commune de rattachement. Aujourd'hui, pour que les gens du voyage puissent bénéficier du droit commun, il y a des actions à mener. Il y a des questions prioritaires de constitutionnalité à faire. Il y a une action sur le niveau politique à faire entendre la voix des gens du voyage. Je ne pense pas qu'en donnant le droit de vote à quelque étranger que ce soit, Union européenne ou pas, nous pourrions créer une espèce de motus vivendi sur les questions de droit de vote entre les populations majoritaires et les gens du voyage. Au contraire, je pense que cela rajouterait une espèce de trouble et cela renforcerait le préjugé selon lequel les gens du voyage, ce sont des éternels étrangers de l'intérieur. Non, les gens du voyage sont des citoyens français. Pour qu'ils puissent voter, il faut qu'ils prennent des mesures fortes et je pense que la manifestation et en tout cas la question prioritaire de constitutionnalité peuvent être des atouts. Malheureusement, la dernière question prioritaire de constitutionnalité, il y en a deux pour l'instant qui ont été réalisées sur le statut des gens du voyage. Une première en 2010 lors de l'élaboration de ces mécanismes, puis une seconde là en octobre 2012, n'a pas donné raison aux gens du voyage. Donc pour que les gens du voyage votent, il faut toujours qu'ils soient soumis pendant 3 ans à une commune de rattachement. La façon dont ils pourront régler le plus efficacement possible cette situation, c'est au niveau politique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le sénateur Pierre Risson s'est engagé à donner plus de facilité aux gens du voyage pour qu'ils puissent voter.
Je veux dire, au départ, quand même, c'est complètement fou que des citoyens français, qu'ils soient gens du voyage ou non de gens du voyage, n'aient pas le même statut. Je veux dire, moi, j'arrive dans une commune, j'ai le droit de voter au bout de 6 mois, eux, il leur faut 3 ans, alors qu'ils sont citoyens français. Je veux dire, il y a déjà une discrimination hallucinante, quoi.
Bien sûr. Cette formalité selon laquelle les gens du voyage ne peuvent pas voter s'ils ne résident pas de façon ininterrompue pendant 3 ans sur une commune, c'est né de la loi de 1969 qui a institué les 4 titres de circulation, les livrets et le carnet. Aujourd'hui, cette loi n'a plus lieu d'être. Et je pense que les législateurs de l'époque ont eu peur qu'une fraction de gens du voyage s'installe avant des élections sur une commune et prenne la commune parce que sur des communes de 50 ou 200 habitants, plusieurs familles peuvent arriver et devenir majoritaires sur la commune. Je pense qu'aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être du tout. Les gens du voyage ne sont pas des gens qui fondamentalement sont intéressés par la politique. Ils ne militent pas. Ils ne sont que très peu engagés et ils ne se sont jamais présentés à quelque élection que ce soit, à ce que je sache. Aujourd'hui, je pense que cette loi n'a plus lieu d'être et je pense qu'au travers des différentes propositions de loi et projets de loi qui vont être déposés sous peu à l'Assemblée nationale et au Sénat, nous aurons la chance de voir cette formalité disparaître.
Et alors, je reviens sur toi. Toi, donc, tu es en voie de devenir avocat. Tu t'es investi depuis 6 ans quelque part dans ce monde-là. Donc, est-ce que tu as l'intention de lier les choses ?
Bien sûr. Moi, si aujourd'hui je fais des études de droit et si j'ai envie d'être avocat, c'est d'abord pour pouvoir aider les gens du voyage. Ça, je l'ai toujours dit, c'est quelque chose qui est vraiment fort pour moi. Je veux donner la possibilité à chacun des gens du voyage, ces citoyens français, d'avoir une véritable défense sur le plan juridique. Je veux pouvoir porter, entre guillemets, la voix des gens du voyage dans les tribunaux. Je veux que ça soit une chance pour eux, je veux que aujourd'hui, j'ai envie qu'on se rende compte qu'il y a des gens du voyage, je veux qu'on se rende compte qu'ils sont citoyens français, et je veux qu'on les respecte en tant que citoyens français de droit commun. Voilà. J'ai envie de continuer mes études de droit pour pouvoir me battre pour eux. Je me battrai peut-être pour d'autres gens, parce qu'il y a aussi d'autres choses qui m'indignent. Mais mon premier combat, et ce qui restera, je pense, mon combat de toujours, ce sera les gens du voyage. Ces citoyens français considérés comme des étrangers et mal vus, malheureusement.
Eh bien, je vais te dire un grand merci, Louis. Et bah, peut-être qu'un de ces quatre, tu pourrais nous jouer de la musique.
Avec plaisir. Merci beaucoup, Jean. Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt.
Eh bien, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Pendant le générique de fin, je vais vous lire deux, j'allais dire poèmes, mais c'est pas exactement des poèmes. C'est plutôt de la prose poétique. Et ces textes ont été écrits par un monsieur qui s'appelle Jean-Marie Kervisch, qui est gitan, manouche, et qui est tombé un jour dans l'écriture et qui écrit des textes très très beaux, et qui est édité pas dans une petite édition, puisqu'il s'agit quand même du Mercure de France. Voilà, je vous dis, je dis d'abord un grand merci à Nico qui va monter l'émission, et puis à vous, eh bien je dis comme d'habitude, la Chodrome. Le premier texte a pour titre « Le voleur ». J'ai volé des fruits à la cantine. Cela s'est su et je suis devenu un criminel aux yeux de tous. La misère n'a pas le droit de voler une pomme, une orange ou un pain. Il faut le demander, quand bien même on mourrait de faim. Cela ne suffit pas de n'avoir rien à manger. Il faut être humilié. « Demande, mais ne prends pas !» m'a-t-on dit. Moi, demander, jamais. J'aurais le sentiment de me faire voler le secret de ma misère. Pourtant, le vol relève parfois d'une mission supérieure. Il existe un art de voler avec son âme qui rend Dieu complice du vol. Le ciel, lui aussi, était complice quand son fils volait aux prêtres leur symbolisme religieux pour le jeter comme on jette la pelure d'un fruit. Mes pensées se sont accrochées aux roues de ma caravane. Elles veulent partir. Ici, le monde est méchant. Le deuxième texte a pour titre « La guitare ». Quand j'étais enfant, souvent je parlais seul. On me disait « Tu es fou ». En fait, c'est à mes pensées que je parlais. J'étais si seul dans cet univers du voyage. Parfois, ma mère me demandait d'aller chercher de l'eau à la fontaine. Remplir les réservoirs de la Verdine était une corvée difficile. Alors, mes pensées et moi, on allait ensemble chercher la précieuse eau et les bidons que je portais semblaient moins lourds. Mais j'étais trop jeune alors pour vouloir rester seul avec Dieu. À l'âge que j'ai, une vie monastique, je la choisisserai pour déguster le parfum du silence dans les hauteurs du monastère. Cette retraite, je la voudrais, mais mes entrailles de gitan portent des roues et la guitare que j'aime refuse de me lâcher la main.